flamme de la lumière des mots qui montent de la terre comme des oiseaux tristes sous un avion fidèle des mots arrive marin d'outre-temps arrive marine d'extase quand je m'arrête tu me prends comme je te prends dans ta case négresse bleue blouse d'horizon et les poissons que tu dégorges depuis ton ventre et tes façons quand ton sexo joue dans ta gorge. Dans cette plaie comme d'un trou grouillant de cris comme la vague quand les goélands sont jaloux de l'architecte ou s'extravaguent. Des maçons aux dents de velours et le ciment dans leur salive à te cimenter pour l'amour, ton cul calculant la dérive. Des mots qui t'envahiraient comme mon absence. Des mots qui montent du silence comme des violons tristes sous une main fidèle. S'en vont par deux, moi le terrien du Pacifique, je suis métisse de mes aveux, je suis le silence en musique. Le parfum des mondes perdus, le sourire de la comète, sous l'empire de ta vertu, quand mes soldats te font la fête. Muselle-moi, si tu le peux, toi, dans ton X ou le vacarme, sonne le glas dans le milieu, moi planté là, avec mon arme. Tu es de tous les continents, tu m'arrives comme la route où s'exténue 10 000 amants, quand la pluie à ton cul s'égoutte. D'alors se fige. Tu es ma glace et moi ton feu. Parmi les algues tu promènes cette déraison où je peux m'embrumer les bronches à ta traîne. Qu'ai-je donc à l'iriser cette miction qui me lamente? Dans ton lit, j'allais te braquer, ta culotte sentait la menthe. Et je remontais jusqu'au bord de ton goémon en soupente, et mes yeux te prenaient alors ce blanc d'écume de l'attente. Des mots qui t'envahiraient comme la détresse.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et comme chaque premier dimanche du mois, vous êtes dans l'émission mensuelle de l'Association des cinéastes documentaristes, ADOC. On a déjà traité le sujet. Nous sommes toutes réalisatrices, membres d'ADOC. Aujourd'hui dans le studio, il y a Anne Galland à la technique. Et pour animer cette émission, Bernadette Mermier et moi-même, Mélanie Trachter. Bonjour Bernadette.
Bonjour Mélanie.
Nous accueillons un réalisateur et une réalisatrice, Jules et Laurence Michel, pour leur film « Ici et maintenant, un autre choix possible » et « 4801 nuits ». Bonjour Jules.
Bonjour.
Bonjour Laurence.
Bonjour.
Avec vous, nous allons parler d'abstinence. Vos films parlent tous deux de sevrage d'alcool. Et pour commencer, c'est Bernadette qui va présenter Jules, ainsi que son film « Ici et maintenant, un autre choix possible ».
Voilà, alors Jules, tu te définis toi-même comme quelqu'un au parcours chaotique qui s'est construit contre. Donc avec une scolarité qui t'a mise à rude épreuve pour franchir l'étape du lycée et sortir avec le bac. Ouais. Je dis tout, hein.
Ouais, je pensais pas qu'on allait remonter jusque-là.
Ta force, c'est peut-être d'avoir pu, depuis toujours, bénéficier d'une solide fibre artistique. Enfant, tu écrivais la nuit, t'intéressais à la musique, à la photographie. Tu as un déclic aux rencontres photos organisées dans le 10e arrondissement de Paris qui t'amène à participer à un atelier cinéma documentaire, KGMAP, en 2015. Depuis, c'est dans le cinéma que tu as trouvé ta voie et en particulier dans une démarche documentaire. Tu assumes ta position d'autodidacte. Actuellement, tu es membre d'ADOC, t'intéressant aux ateliers d'éducation à l'image. Par ailleurs, tu as suivi une formation son aux ateliers Varan. Tu es aussi assidu au festival de Lussas et investi dans l'association Les Yeux de Louis. Plus axé sur une approche expérimentale dans toutes les formes d'expression artistique. Animé par le désir de comprendre les nouages de la condition humaine, tu prends la caméra pour contribuer à changer le regard sur la souffrance psychique. Tu t'intéresses particulièrement à cerner des ressources personnelles mises en œuvre pour dépasser les épreuves. Tu travailles avec ce point de vue, ce qui te permet d'apprendre des personnes en les filmant. Aujourd'hui, tu dispenses même des formations auprès de professionnels du soin psy en France et à l'étranger. En bref, tu as trouvé ta voie. Alors, voilà, je fais ce portrait en fonction de ce qu'on a pu échanger. Est-ce que tu veux compléter éventuellement ?
Ouais, merci Bernadette. J'ai fréquenté beaucoup ADOC, j'ai fréquenté Les Yeux de Louis. J'ai cofondé une association qui s'appelle UP, Underground Psychiatry, pour laquelle je m'occupe vraiment de la réalisation et moins de la formation. Mais du coup, je filme la formation. Et j'ai fondé Ceux qui nous traversent, ma boîte de production, pour justement dealer avec tous ces partenaires avec qui je travaille sur des questions de santé mentale, de souffrance psychique, de rétablissement, de dépassement des traumas.
Et donc c'est avec cette société de production que tu as produit le film que nous présentons aujourd'hui.
Ouais, je l'avais pas encore créé. C'est sous forme associative pour le moment, Ceux qui nous traversent. À l'époque, j'ai tout fait vraiment tout seul. On m'a prêté une caméra. Comment elle s'appelle ? Elle est d'ADOC aussi.
Catherine Richard.
Catherine Richard, yes. Merci Catherine, si t'es là. Pablo aussi, Pablo Rosenblatt m'a donné beaucoup de coups de main. Et puis j'ai rencontré aussi Florent Mangeau qui m'a aidé à faire le montage. Florent, merci.
Ok, donc...
présenter un petit peu le film peut-être aussi pour les auditeurs. D'accord.
Oui, alors je présente le film... on entre dans ton film avec une voix off masculine sur fond noir. Cette voix dit le manque de confiance en la vie. Puis le titre du film, ici et maintenant, un nouveau choix est possible, apparaît. La voix off se poursuit jusqu'à ce que l'on découvre enfin le visage d'un jeune homme qui nous regarde, impassible, et nous sourit. Sa voix off devient sa voix intérieure. Le ton est donné, celui du portrait. Puis un prénom sur fond noir apparaît, Adrien. Alors que la voix off se poursuit jusqu'à ce qu'Adrien s'anime, alors pleinement in. On écoute l'extrait.
Moi, j'avais perdu confiance en la race humaine, quoi. Je me disais, mais c'est n'importe quoi, la race humaine. De par mon vécu, de par ce que j'avais fait, de par ce qu'on m'avait fait. Je me disais, non, c'est pas possible. Bah si, ça existe. Je consommais, j'étais négatif, je me disais, je vais mourir à 37 ans. Et non, ma vie, elle a changé l'année de mes 37 ans. Je comprenais pas, je disais, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi... Et je consommais encore plus, du coup. Et ça avait encore des conséquences. C'était sans fin. C'était sans fin. Et le fait d'arrêter de consommer, j'ai mis un terme aux conséquences. J'ai demandé de l'aide, ouais. J'ai demandé de l'aide. Ouais. Et on m'en a donné. Et on m'a pas jugé. On m'a pas repoussé. On m'a... Comme... Comment je pourrais dire? Comme un... Comme un enfant à qui on dirait c'est pas grave. Assieds-toi, c'est pas grave. Parce que t'as fait des bêtises, c'est pas grave en gros. Ouais, je l'ai ressenti comme ça. T'as fait des bêtises et c'est pas grave, assieds-toi. Prends ton temps. Écoute. Parle. Et au début, je me disais, mais. Je vais pas y arriver. Je me disais ça, ouais, je vais pas y arriver. C'est trop long, c'est trop dur, j'ai 37 ans, tout recommencer, c'est trop dur, je peux pas. Parce que moi, j'ai commencé à travailler à 18 ans, j'avais construit des choses que j'ai détruites en consommant. J'ai tout perdu. Et de regravir cette montagne, c'est-à-dire retrouver un appart, retrouver un boulot, j'avais pas envie, j'avais la flemme, je me disais, je vais pas y arriver, en gros. Et j'ai vu que c'était possible. Les autres m'ont montré que c'était possible. De par leurs histoires, de par leur bienveillance, de par leur patience, j'ai vu que c'était possible. Et petit à petit, je me suis dit, si ils ont réussi, bah, peut-être que je peux y arriver.
Voilà l'ouverture du film. Ici et maintenant, un nouveau choix possible. Alors, Jurle, est-ce que tu pourrais nous dire comment ce film s'inscrit dans ton parcours et dans quelles circonstances tu as pu le mettre en œuvre ?
Ouais, du coup, j'étais à un moment de ma vie où je m'intéressais beaucoup à comment je pouvais changer, en fait, et quelles ressources personnelles je ou on pouvait mobiliser pour changer. Changer de vie, changer de trajectoire et aller vers quelque chose qui nous convient. Et du coup, j'ai rencontré des gars comme Romain ou Thierry, que j'avais commencé à filmer, et qui appartenaient à la communauté thérapeutique d'Aubervilliers. Et puis, j'ai passé le film avec Romain à la communauté qui a été super bien accueillie. Et la communauté m'a aussi demandé, après, de réaliser un film pour une occasion très particulière où toutes les communautés de France se réunissaient pour parler de leur méthode de travail. Et pour représenter la communauté, j'ai eu l'occasion de faire un film. J'avais le droit à 10 minutes, j'en ai fait 25. Et ça a été une super occasion.
Et donc, tu peux nous dire comment tu as choisi tes personnages ?
Ouais, du coup, c'est Suzy Longbottom, la chef de service de la communauté, qui souhaitait créer un lien entre les anciens résidents et les nouveaux résidents, et ainsi faire parler en fait du travail qu'est fait la communauté. Du coup, j'avais une cinquantaine de contacts d'anciens résidents qui étaient passés par là. J'ai réussi à en contacter 25, j'en ai filmé 17. Pour moi, c'était très important que chaque personne qui voulait participer soit entendue, reconnue et ait cette possibilité-là. Et après, j'ai réussi à en monter 10. Et quand a eu lieu la première projection, voilà, beaucoup des personnes présentes donc, qui travaillaient dans d'autres centres de soins m'ont dit « Putain, le film est génial, et est-ce que tu peux venir le projeter chez nous ?» Et du coup, de là, j'ai invité les participants que j'avais pu filmer à venir présenter le film avec moi.
Donc, du coup, il revêt quasiment un caractère quasi thérapeutique pour eux, finalement. Est-ce que ça leur a fait du bien, enfin, je veux dire, de se voir à l'écran, et ça a occasionné des débats? Comment tu organisais les choses?
Je pense que c'est... Je pense que ça a dû réparer beaucoup de choses, en tout cas, a contribué. Par contre, de là à être thérapeutique, j'aurais pas cette prétention-là, même si je serais content d'y participer. De retourner dans d'autres centres d'accueil et qu'ils puissent sortir via un film documentaire de leur univers et aller dans un autre, ça je trouve que c'est une belle expérience, une belle opportunité. Je me souviens d'un centre qui était en pleine remise en question du projet thérapeutique, et avec lequel on a organisé une projection, et chacun des membres ont été répartis en mini-groupes, et on a réfléchi avec les résidents de cette communauté à un nouveau projet thérapeutique ensemble. Donc le film a participé à l'élaboration d'un nouveau projet thérapeutique en incluant les résidents. Ça, je trouve ça super fort.
Ouais, donc ça devient un outil quasiment pour gérer peut-être des situations d'addiction qui sont en train de se stabiliser. Et alors justement, donc voilà, ça donne envie en fait aussi aux gens. C'est une sorte de stimulant finalement en fait. Ça montre que oui, voilà. Tout est possible.
Pour moi, oui, ça sert vraiment à faire bouger les lignes, puisqu'en France, je crois que c'est... enfin, en tout cas, j'ai pas les chiffres en tête, mais la majorité de ce qui est proposé concernant les problèmes d'addiction, c'est la réduction des risques, qui a voilà, une certaine prise en charge. Mais on propose très peu l'abstinence, c'est-à-dire que personne ne sait, en fait, qu'on peut vivre abstinent et épanoui. Et là, le projet de la communauté thérapeutique est basé sur le modèle Minnesota. C'est aussi le modèle des alcooliques anonymes, des narcotiques anonymes, qui font un boulot extraordinaire et qui ont des vrais résultats. C'est-à-dire que les gens arrêtent de consommer et commencent à faire des meilleurs choix, à apprendre sur eux et à s'entraider entre eux. Et c'est ça qu'on retrouve aussi dans l'esprit du film.
D'accord. Donc, ton film est monté beaucoup sur le texte aussi. Comment tu,
ouais.
Tu as choisi en fait les segments qui...
L'idée avec aussi la chef de service, c'était de parler de ici et maintenant, ce à quoi sont confrontés en fait les anciens résidents une fois qu'ils sont sortis du centre, de pas revenir sur leur période de consommation active ni sur leur parcours de soins, mais concrètement au jour le jour, comment ils font en amour, au travail, avec leurs amis, dans leur choix professionnel, ou du coup l'idée c'était comme c'est beaucoup basé sur des groupes de parole où chacun partage sa propre expérience et ses difficultés, mais aussi ses victoires, le film est aussi comme ça, c'est-à-dire c'est beaucoup de partage d'expérience. On dit, ben voilà, moi j'avais ça comme problème, j'ai résolu comme ci, comme ça, là je rencontre ça comme problème et j'essaie de faire comme ci, comme ça. Et du coup, énormément de personnes peuvent s'identifier, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, de toute culture.
Bon, ben très bien. Bon. Donc voilà pour une première présentation rapidement. Donc je passe la parole à Mélanie qui va présenter donc le deuxième film.
Donc Laurence Michel. Donc,
et Laurence Michel.
Donc, bah, Laurence, donc toi tu as 51 ans, tu travailles depuis plus de 20 ans comme monteuse dans l'animation, la publicité et dans le documentaire. Tu m'arrêtes si je me trompe.
Non, c'est ça, c'est trop bien.
Et en 2014, tu fais les Ateliers Varan et tu réalises Ronde Bosse, un film dans lequel tu questionnes le rapport entre féminité et chevelure. En parallèle, tu collabores régulièrement avec des artistes plasticiens. En 2018, quand tu décides d'écrire un film qui raconte ton addiction à l'alcool, c'est tout naturellement que tu vas y intégrer des objets. Ce film, c'est 4801 nuits. Il raconte ton histoire, de ton enfance aux nuits lesbiennes du pulp dans les années 2000,
après 10 ans d'abstinence, donc tu sembles chercher ce qui pourrait te convaincre de ne pas reboire. Tu ressasses des souvenirs, ton accident de mobylette, ton voyage aux États-Unis pour retrouver 6000 km plus loin les mêmes problèmes. À travers tes objets et ceux ayant appartenu à tes aïeux, tu nous racontes comment tu as toujours vécu sur le fil. Pour rompre la spirale infernale, tu vas chercher vers l'extérieur une lumière salvatrice, c'est celle des aurores boréales. Nous avons découvert 4801 nuits cet été aux ateliers du documentaire de l'USAS. C'est d'ailleurs là aussi que tu as rencontré Jules. Tu peux nous raconter comment vous êtes rencontrés ?
Alors oui, avec Jules, on s'est rencontrés, écoute, je ne sais même plus, c'était en 2015 ou 2016. En 2015, bah, c'était la première fois que j'allais à l'USAS, aux états généraux du documentaire. Tu te souviens, toi, Jules ?
Ouais, très bien.
On était assis à
c'était
côté.
C'était l'heure de l'apéro. Tout le monde se peintait la gueule, il faisait beau, on était trop contents d'être là. Et ouais. Je sais pas pourquoi on s'est reconnus. On s'est parlé.
Ben moi, je t'ai dit, je me souviens très bien, c'est moi qui ai commencé, je t'ai regardé, ben en fait, moi, je bois pas, je suis alcoolique. Et tu m'as dit, eh ben moi aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. Et voilà, et depuis on se recroise régulièrement aux états généraux, enfin à l'USAS quoi.
Ouais, c'est
encore cet été. Ouais. Cet été, t'as découvert le film de Laurence.
Et enfin, ouais, tu m'en avais parlé l'année dernière. Et du coup, là, cette année, il était sélectionné, donc projeté. Mm-hmm. Et j'ai pu le découvrir en projection, en festival, Grandeur Nature.
Ouais, bah moi j'avais pu voir le tien aussi. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand on s'est rencontrés, on n'avait pas encore l'idée de nos films, je crois. Et c'est petit à petit, chacun de notre côté, on a... On a écrit notre histoire à notre façon, chacun, chacune, quoi.
Yes.
Pour les auditeurs, 4801 nuits, en fait, c'est un film tendre et pudique. Tu vas me dire, toi aussi, tu l'as trouvé poétique, peut-être, aussi.
J'ai trouvé très poétique.
Ouais.
J'ai trouvé très beau, très tendre, avec une richesse d'expression extrêmement forte.
Donc, au début du film, donc là, je vais te citer, Laurence. Donc, c'est ta voix off qui dit ça. Donc, tu dis... Le jour où j'ai dû faire le choix d'être abstinente, je ne me projetais pas sur le long terme. Pourtant, la définition du dictionnaire est très claire. L'abstinence est le renoncement volontaire à la satisfaction d'une envie. Pour être efficace, la cessation de toute consommation alcoolisée doit être totale et définitive. En gros, j'ai pris perpète. Donc on va écouter, comme pour ton film Jules, un extrait. Mais moi, pour que les auditeurs imaginent la séquence, donc je vais dire qu'à l'image, donc on voit des petits agendas sur lesquels tu as noté des dates, des lieux, Laurence. Mmh. Et puis ensuite, on voit un biberon de lait que tu fais voler dans une voie lactée. Et à la fin de l'extrait, il y a c'est un travelling où tu descends une piste de ski.
Okay. Donc,
merci Anne pour l'extrait.
Pour la fac. Le challenge était d'aménager mon planning entre les soirées à l'entracte, The Place to Be, quand tu es lesbienne à Paris et que tu as 20 ans, et mes cours de maths ou d'astrophysique. J'en profitais pour faire quelques recherches sur le vent solaire et la formation des aurores boréales qui me fascinaient. Mais je me suis finalement perdue dans la constellation des discothèques des grands boulevards parisiens. Le Palace, le Privilège, le Rex, le Scorpion... L'entracte et ses fameuses soirées pulp. Les aurores boréales sont formées entre 80 km et 100 km d'altitude par l'interaction du vent solaire avec l'atmosphère terrestre qui excite les atomes qui émettent de la lumière. Imaginons. Imaginons toute cette charge électrique là, juste là, au-dessus de moi. Je pourrais devenir ultra forte, ou rajeunir, ou peut-être même guérir.
Eh Bien, toi aussi, ça va être la même question. En fait, qu'est-ce qui a été le déclic? Parce que toi, c'est au bout de 10 ans.
Que 10 ans que tu fais ce film, qu'est-ce qui, un jour, t'a donné envie de faire cette introspection?
Alors, en fait, c'était lors d'une soirée à laquelle j'étais invitée chez une amie. C'était une soirée champagne. Et donc, tout se passait bien. Hein. J'ai passé une bonne soirée. Mais quand même, je me rendais compte que, au bout d'un moment, au fil du temps, dans la soirée, je me sentais plus à mon aise. Quoi. Enfin, disons que les gens qui buvaient beaucoup venaient me voir. Et plus ça allait, plus les discussions étaient un peu étranges.
En décalage.
Étaient complètement en décalage. Et je me suis dit, qu'est-ce que je viens faire là? Et donc, j'ai eu cette... j'étais là avec... à cette soirée, j'étais avec Alice Marsal, qui, du coup, a produit le film après. Mais à ce moment-là, dans le métro, je lui dis, écoute, Alice, il faut absolument que je fasse que je raconte mon histoire sur mon alcoolisme. Au départ, c'était le point de vue... l'idée que j'avais, c'était d'abord l'alcoolisme. Petit à petit, ça s'est transformé en plutôt abstinence. Mais, j'ai verbalisé ça. J'avais besoin de parler le terme de problème, j'aime pas trop, mais en tout cas de ce décalage, oui, que je vis en soirée, encore maintenant d'ailleurs.
Et de le partager, parce qu'en fait...
Et de le partager, oui.
Parce que d'écrire ce film, il y a des réactions.
En fait, je pense que quand j'en parlais à mes proches ou à des amis, que j'étais pas bien dans les soirées, on me disait, oui, enfin, c'est pas le problème de pas boire. Moi, des fois, je vais en soirée, je ne bois pas. Et je voulais vraiment faire la différence entre ne pas boire de temps en temps et ne plus jamais boire, quoi. Ce qui n'est pas la même chose.
Là, dans l'extrait, on voit qu'en fait, c'est les aurores boréales assez vite qui vont te sauver, quoi.
Donc c'est ce que j'espère, oui. Alors ça, c'est marrant parce que cette séquence-là, je l'ai imaginée, je suis allée dans une boîte, c'était pile 10 ans après, en fait, effectivement, que j'avais décidé d'arrêter de boire. Et donc, je vais dans une boîte et je vais vers le bar... parce que le bar est souvent à l'entrée dans les boîtes, et visuellement, je suis attirée par une lumière verte, c'était les spots qui étaient la piste de danse, en fait. Et finalement, je ne suis pas allée au bar, je suis allée voir ce qui se passait sur la piste de danse, attirée par cette lumière verte. Et comme j'ai toujours été fascinée, ça je le raconte dans le film, par les aurores boréales, petit à petit, au moment de l'écriture du film, je me suis dit, ce serait intéressant, justement, que ce soit ce qui me sauve, en fait, de l'alcool, quoi. Ou de ma maladie...
C'est un parcours, quand c'est initiatique. Peut-être dans ton film, Jules, c'était gravir une montagne, qu'il dit, Adrien. Donc il y a quand même cette idée de... C'est costaud, quoi. Et...
Alors c'est marrant parce que c'est le premier plan de mon film, la montagne.
Oui,
je faisais la réflexion tout à l'heure. Ouais.
Ça t'a... Je t'ai vu noter, donc peut-être que...
Oui, c'est ça. Mon film, il commence par « Je gravis une montagne », quoi. Et c'est le moment présent du film, en fait. C'est « J'en suis encore à gravir cette montagne ».
Toi aussi, Jules, t'as vu le rapprochement des deux films quand t'as...
Non, pas à ce moment-là.
Pas à ce moment-là.
Parce que la montagne que tu filmes, j'y suis allé aussi pour un autre projet autour de la psychiatrie. Et du coup, c'est vrai que je pensais à ça aussi. C'est étonnant comment nos routes se croisent.
Mm-hmm, exactement.
En Norvège aussi.
Mm-hmm. En Norvège.
À Tromsø, pareil. Même endroit.
Et vous êtes vus à ce moment-là?
Non. Non.
Non, pas, non. Non, pas en même temps quand même.
Non, non, mais on a été au même endroit, ouais.
Ouais, c'est énorme. Oui, en fait... toi, dans ton film, en fait, dans l'écriture, t'as mis 5 ans à l'écrire, en fait. Donc, c'est venu dès le début, les aurores, pratiquement.
C'est venu au bout d'un an, ouais, au bout d'un an d'écriture, à peu près. Mais alors, pour l'écriture, donc déjà, je voudrais quand même dire, j'étais très aidée par Alice Marsal, qui a
avec qui
t'as fait
les ateliers Varan.
On s'est rencontrés aux ateliers Varan, exactement. Et justement, elle a accepté de produire mon film parce qu'elle avait bien aimé dans le film des ateliers Varan. L'utilisation que je faisais d'un œuf dur, enfin voilà, d'un objet pour raconter mon histoire. Et donc, elle m'a dit, ok, je produis ton film, mais j'aimerais bien que tu utilises des objets. Donc, ça tombait bien. Et aussi, pour l'écriture, j'ai été très accompagnée par Alain Adaken, voilà. Et donc, dans la vie, il fait beaucoup de choses, Alain, et c'est quelqu'un de très sensible, de très généreux, voilà. Et il est aussi script doctor, ce qu'on appelle, donc il relie souvent les dossiers pour les demandes de financement et autres. Et là, en l'occurrence, il m'a aidé pour cette partie-là de demande de financement, mais aussi de rédiger le récit en lui-même, quoi.
Parce qu'avant de déposer à Brouillon de rêve, t'as mis beaucoup de temps, en fait.
Alors. On a mis un an à peu près avant de déposer. Ouais, enfin, je me rends pas compte, mais non, ouais, on a mis un an, voilà, pour déposer à Brouillon un rêve, que nous avons eu. On a eu la chance d'avoir cette aide-là, et ça nous a motivés pour continuer. Et après, pendant un an et demi, on a déposé, c'était l'aide à la production au CNC, et on a eu un échange pendant un an et demi, parce qu'on passait ce qu'on appelle les plénières avec remarques. Ça veut dire que le sujet du film, enfin le projet leur plaisait, mais il y avait quelque chose à modifier selon leurs critères, etc. Donc il y a eu comme ça 3 échanges pendant un an et demi. On n'a pas eu l'aide à la production, on n'a pas eu ce financement-là, mais on avait, avec Alice, on s'est dit qu'on avait le film.
Avec Par contre, ça t'a aidé à l'écrire.
Exactement, ouais, exactement.
C'était des retours pertinents.
Oui, bah disons, comment placer cette histoire d'aurore boréale dans le film, dans le récit. C'est vrai que c'était pas compréhensible dès le départ, parce que moi j'avais une intuition, mais c'est vrai que je n'arrivais pas à verbaliser vraiment. Là maintenant ça paraît un peu évident quand on voit le film, mais ça ne l'était pas au départ. Donc voilà, c'était ça. Ça a été aussi comment placer le personnage de Sue Ewing. Voilà, je vais pas trop spoiler non plus, mais non. Je sais. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça qui comment dirais-je, qui n'étaient pas évidents à écrire, mais comme c'est un film avec des objets, il fallait quand même qu'on fasse un vrai dialogue, un vrai synopsis. Voilà, donc il a fallu pendant un an et demi écrire, et voilà.
T'as fait plein d'allers-retours.
Exactement. Ouais.
Tu connais par cœur maintenant.
Il y a eu tellement d'allers-retours que non, il y a eu beaucoup de modifs, donc des fois, je ne sais plus trop ce qui est resté ou pas. Mais voilà.
On va revenir bientôt. Et là, on va faire une petite pause musicale avec la première musique qui nous est venue à l'esprit quand on a préparé d'où l'émission, c'est Je bois de Boris Vian, une chanson de 1955, mais qui n'a pas pris une ride. Vous aidez pas Boris Vian, donc ça va.
Je sais pas, je parle pas trop dans les trucs.
Non, hein. Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja, pourvu qu'il ait ses 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. La vie est-elle tellement marrante, la vie est-elle tellement vivante, je pose ces deux questions. La vie vaut-elle d'être vécue, l'amour vaut-il qu'on soit cocu, je pose ces deux questions auxquelles personne ne répond, et je bois systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Je bois dès que j'ai des loisirs, pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule. Je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir. Je bois dès que j'ai des loisirs. Pour être sourd, pour ne plus voir ma gueule, je bois sans y prendre plaisir, pour pas me dire qu'il faudrait en finir.
Auditeurs, bonjour. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 dans l'émission d'Adoc. On a déjà traité le sujet avec nos deux invités du jour, Jurle et Laurence Michel. Jurle Vaste et Laurence Michel. Alors, nous allons reprendre cette deuxième partie d'émission avec Jurle et son film Ici et maintenant, Un nouveau monde est possible. Un nouveau choix est possible, pardon. Nous allons donc passer le deuxième extrait de son film. Et tout d'abord, je vais le décrire brièvement. À l'image, deux plans qui s'enchaînent sur Patricia, la deuxième, enfin, un des témoignages du film. Patricia déterminée à garder le cap vers une nouvelle vie. Le témoignage de Patricia illustre bien le titre du film. Elle dit « J'ai fait des erreurs, j'ai envie d'aller de l'avant et je ne me laisse pas écraser par mon passé. » On écoute l'extrait.
C'est quoi le bruit qu'on entend ? La conscience, ça coûte cher, quoi. Ça coûte la vie. Et ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Je vis, je suis vivante. Je suis vivante, je traverse. Et je vis des choses. Et je suis un être humain. Je fais des erreurs. J'ai envie d'aller de l'avant. Et je ne me laisse pas écraser par mon passé, par mes paranoïas, par mes peurs, par mes projections, et trouver une sorte de détachement de mon passé. Ça, c'était aussi un souhait que j'avais, que j'ai poursuivi, mon souhait que je poursuis dans mon rétablissement, c'est aussi de me détacher de ce qui c'était mon passé, parce que moi, j'ai morflé, j'ai mangé de mon passé, je pouvais plus vivre comme ça, c'était pas possible, c'est normal que je consommais, ok, à la limite, j'avais des idées noires, c'est pas une vie, celle-là. Ça, c'est pas une vie que ça vaut la peine d'être vécue. Voilà. Je fais un travail sur moi. Je peux que aller dans une bonne direction parce que j'en ai envie, parce que j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux changer, pourquoi je souffre autant, de me réapproprier de mes émotions. Voilà, c'est tout un... C'est beau, hein. Ça, franchement, c'est beau, ça vaut la peine, quoi. Moi, j'ai pas envie de vivre dans la confusion et le désespoir dont j'étais il y a 3-4 ans, quoi. Non, jamais de la vie.
Alors, le témoignage de Patricia illustre bien le titre du film « Ici et maintenant », parce que chasser le passé pour mieux vivre le présent. Alors, Jurle, on a vraiment le sentiment aussi que le fait qu'elle puisse le dire dans ce film, c'est quelque chose qui lui fait du bien. Alors, de participer à ce film, est-ce que ça a aidé toutes ces personnes à aller mieux, à comprendre, voire à dépasser leurs souffrances?
Je pense que c'est surtout le travail thérapeutique qu'elles ont pu faire, les mouvements d'entraide auxquels elles participent, et les nouveaux choix de vie. Et qu'après d'accompagner le film en projection, c'est aussi un bon moment où Patricia a pu le faire aussi avec moi. Ça, c'était super cool. Ce que j'aime bien dans cet extrait, c'est d'une part, elle explique très bien ce par quoi elle passe et comment elle le dépasse, mais aussi que dans cette idée de voilà, on peut être submergé par plein de pensées ou de comportements toxiques et que de revenir à ici et maintenant, à ce qui se passe vraiment et pas forcément toutes les peurs qu'on peut projeter, la colère qui nous fait réagir au quart de tour, aide justement à faire de meilleurs choix et être plus stable et à avoir une meilleure vie.
Oui, elle parle du rétablissement. Alors, y a souvent dans ton film, en fait, certaines personnes abordent ce concept. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ?
Ouais, le rétablissement, c'est cette idée que, au lieu de un peu subir sa vie et tous les comportements qui ont été déformés par l'addiction, on puisse rétablir une forme d'équilibre, d'épanouissement et de conscience. Et du coup, l'idée derrière le rétablissement, c'est vraiment de faire des nouveaux choix. C'est-à-dire choisir d'être abstinent, choisir de changer de métier, choisir de changer dans ses relations, choisir d'aller vers d'autres personnes, choisir de se comporter autrement, choisir de se regarder, d'aller voir là où ça fait mal, choisir de se faire aider par des bonnes personnes, choisir de se remettre en cause, choisir de faire des efforts, choisir d'aider d'autres dans cette démarche-là.
Oui, donc disons que donc rétablissement, tout à coup, est-ce qu'on pourrait dire guérison, mais est-ce qu'on est guéri
Je ne sais pas si la guérison existe, mais ce que je sais, c'est que cette dynamique de rétablissement, ce processus de démarche de soins, change la vie, concrètement, tous les jours, et ça se vérifie, quelles que soient les personnalités, quels que soient les moyens dont elles disposent, et quels que soient ce qu'elles ont pu vivre par le passé.
Oui, c'est reprendre un peu les manettes de sa...
Exactement.
De son potentiel, donc effectivement, choisir, c'est être libre.
Ouais.
Savoir choisir, c'est être libre.
Ouais, on avait fait cette projection où tu étais venu, Laurence, au Grand Voisin, où j'avais invité Tim Grissom, qui a beaucoup travaillé autour de ces questions, à la fois de soins communautaires, mais d'empowerment. Donc ça, c'est une notion qui est beaucoup diffusée en santé mentale, et qui peut être parfois un peu galvaudée, mais c'est vraiment l'idée de choisir son parcours de soins, choisir faire ses propres choix de vie, et puis laisser un peu les autres décider pour soi où la vie nous emmène.
Très bien. Donc,
effectivement, c'est une des rares femmes de ton film. Moi, je me posais la question, parce que pendant la chanson, on l'a évoqué, dans les 17 personnes que tu avais, avec qui tu avais eu des entretiens, en fait, il y avait plus de femmes. Mais pourquoi, après, en fait, il y en a moins qui restent dans le film final ?
Alors, dans les personnes que j'ai contactées, ouais, il y avait plus de femmes, mais elles restent quand même très minoritaires. Dans le parcours de soins, elles sont moins à cette époque-là et à la CT, elles étaient minoritaires. Et du coup, il y a un effort qui a été fait pour l'accueil. Et du coup, maintenant, il existe de plus en plus de solutions spécifiques pour accueillir les femmes. Elles sont de plus en plus représentées et je crois qu'elles ont vraiment quelque chose aussi à apporter. Et dans les personnes que j'ai filmées, il y en a une, Laura, qui est pas au montage final, mais qui avait participé. Et puis, il y avait deux autres avec qui ça n'a pas pu se faire. Du coup, pour moi, c'était important de vraiment filmer toutes celles et ceux qui veulent participer. Et du coup, j'ai fait au max, j'ai fait au mieux.
Ouais. Laurence, dans ton film, tu parles de Francine, ta tante aussi. Mmh. Donc, effectivement, est-ce que quand on est femme, c'est plus compliqué à dire, ou est-ce que c'est pas ou alors dans un lieu où il y a que des femmes pour se soigner, par un lieu mixte, je sais pas.
Alors moi, je parlerais surtout de. Enfin, moi déjà, je me cachais, hein. J'en parlais pas. Donc, je sais que ma tante aussi, elle se cachait. Elle se cachait. C'est un film féminin, c'est-à-dire que j'ai vraiment choisi de parler, contrairement à Jules en fait, moi je parle de moi en tant que femme, je me voyais pas aller interroger d'autres personnes à ce sujet-là, parce que déjà autour de moi je connais personne. Je voulais pas aller vers les hommes parce que je voulais vraiment traiter ça au féminin, et autour de moi je ne connais pas de femmes qui ne boivent plus ou qui boivent, et en tout cas qui le disent, parce que c'est ça en fait. Je pense qu'il y a autant de femmes que d'hommes, mais les femmes se cachent
plus.
Ouais,
c'est plus tabou, effectivement.
Exactement. Ouais.
Donc effectivement, l'image, tu l'évoquais tout à l'heure, de la femme ivre, bon, nous, il y a des films dessus, mais on n'en a pas tant que ça, des films en France sur les femmes alcooliques dans le cinéma.
Non, je crois
comme
pas.
Exemple. Si, mais il y a eu, comment elle s'appelle si, il y a Betty, il y a un film. Mais c'est vrai que ce n'est pas des exemples qu'on a énormément, mais par contre, on a effectivement sous Hélène, ce que tu évoquais tout à l'heure, et d'ailleurs, c'est marrant que tu en aies parlé parce que c'est un extrait qu'on a choisi. Donc à l'image, pour les auditeurs, je vais expliquer encore ce qu'on voit. Parce qu'on voit un verre de martini sur un fond noir. ça devient le générique un peu de James Bond. On entend ta voix et celle d'une amie, je crois que c'est Estelle Vincent.
C'est Estelle Vincent, oui.
Elle est comédienne ?
Elle est comédienne, exactement, et elle a accepté de jouer le rôle de Sue Ellen. On n'a pas trouvé. J'ai demandé en fait à la vraie,
voix française.
La voix française de Sue Ellen qui n'a pas accepté. Mais en tout cas, voilà. C'est pas grave. Estelle fait très très bien le job, on va dire.
Ouais, carrément.
Ouais. Et à la fin, donc après, on voit un écran noir, un petit livret cartonné, donc qui est le livret d'une discothèque. Je sais pas quelle discothèque. Ça a servi de livrer dans la discothèque ou tu l'avais vraiment?
Ah, c'est le flyer, oui, le flyer de discothèque. Oui, je les collectionne. Ouais, j'en ai
tu plus. Collectionnes, ouais, t'es une collectionneuse. Je m'en doutais que t'étais une collectionneuse. Quand on voit le film, on se dit, bien, bon, on écoute tout de suite l'extrait.
Regardez bien ce verre. Ne voyez-vous pas cette magnifique créature aux yeux bleu-gris, à l'esprit vif et intelligent, aux cascades impressionnantes et à la virilité ultra-sensuelle? Vodka Martini, c'est le cocktail préféré de Bond, James Bond. Alcoolique, lui? Non. L'espion des services secrets britanniques est le plus grand séducteur de ces dames. Et moi, Sue Ellen, alcoolique?
Ivrogne même. Personnage phare de Dallas, la série des années 80, où vous étiez toute ma jeunesse. Je ne compte plus les soirées où l'on m'a appelée Sue Ellen parce que j'avais trop bu. Alors que pour moi, vous êtes une héroïne. Je vous ai vu lutter tant de saisons. Votre famille regardait impassiblement J.R. vous tromper et vous humilier. Et vous êtes tombée si bas dans leur estime qu'ils vous ont cru capable de tirer sur lui dans la saison 3.
Mais c'était ma sœur Christine la coupable.
Sue Ellen ? Sue Ellen Ewing ? C'est vraiment vous ?
Entre nous, Laurence, si j'avais pu avoir une sœur comme la tienne.
Mais pourtant, vous aviez Bobby qui vous soutenait.
Gentil Bobby, on ne peut pas toujours s'appuyer sur sa famille, n'est-ce pas? J'ai arrêté de boire et j'ai tenu 20 ans. J'étais déterminée à empêcher J.R. de me faire replonger. Et puis il est mort, pour de bon cette fois, emportant avec lui toute la rage de mon combat. Le soir même, j'ai baissé la garde et j'ai vidé sa bouteille de bourbon. Tu le sens, Laurence, au fond de toi. Pour garder le cap, tu vas devoir t'appuyer sur quelque chose d'encore plus fort que la famille, de beaucoup plus grand que ta seule volonté. Alors ne fais pas la même erreur que moi. Accroche-toi à quelque chose qui ne peut pas mourir.
Alors, il y a très peu de son direct dans ton film. C'est construit, tout est très construit. Et en fait, toi, tu n'as jamais envisagé d'être face caméra à aucun moment. Tu as décidé dès le début de mettre une voix off ou pas?
Oui, enfin, dès le début, je savais que je ne serais pas face caméra, effectivement. Ouais. Et du coup, j'avais quand même cherché un petit peu des images, des archives que je pouvais utiliser, mais après c'est des questions de budgétaires où on peut pas, parce que l'extrait que Sue Ellen, dès les premiers moments d'écriture, je pensais éventuellement utiliser des extraits de la série, mais bon, Alice m'a dit c'est pas possible. Et je suis tombée sur ce flyer de discothèque que je collectionne et comme de toute façon au moment de l'écriture j'avais déjà eu l'idée des objets que j'allais utiliser, bah ça tombait, enfin c'était une évidence quoi, que je raconte cette histoire avec cet objet là.
Mais par contre ta voix des fois ça a peut-être été dur à poser parce que tu avais écrit un journal intime quand t'as eu des rechutes ou t'as toujours gardé des traces, mais il y a un moment dans le film on t'entend pleurer même, donc quand tu...
Sur les archives familiales, non, c'est ça?
Oui, en disant que tu as raté des moments, et en fait, enregistrer une voix, c'est pour ça que tu fais intervenir des amis, peut-être, ou d'autres personnes avec toi pour parler, c'est plus facile, des séquences comme ça, non?
Alors, en fait, pour la voix, ça a été très, très, très dur de la poser. En fait, la voix, c'est vraiment le texte que j'ai écrit pour les demandes de financement. Donc, c'était très, très écrit, le texte. Et au moment de l'enregistrement, on avait donc réservé 2 jours et demi d'enregistrement avec une ingé son, Emmanuel Villard, et puis donc il y avait Alain Adaken aussi qui était mon coach voix. Et donc j'ai lu en fait quasiment le texte et ça n'a pas du tout fonctionné au moment de le monter avec l'image. C'était trop rigide, trop écrit, etc. Donc ça n'allait pas. Il a fallu que je
commence.
Alice m'a autorisé, m'a rajouté 5 jours de montage où seule. Dans la salle de montage, parce que je suis aussi monteuse, donc j'ai pu me dépatouiller tout ça, j'ai réimprovisé la voix pour qu'elle soit plus fluide. Donc du coup, j'ai trouver aussi d'autres choses à dire qui n'étaient pas forcément écrites, mais qui étaient là dans l'inconscient. Et j'ai oublié ta question, Mélanie. Non,
c'est pas grave.
Mais en tout cas, voilà. Et au moment de dire ma voix, voilà, j'ai retrouvé. Il y a des fois, ça ne sortait pas. C'est-à-dire que je pense principalement à la séquence aussi du soldat, où là, je lis le texte de... du livre À l'Ouest, rien de nouveau, donc j'ai oublié l'auteur, mais...
celui qu'on étudie, je suis la même génération que toi,
voilà,
à l'école.
Là, je n'arrivais absolument pas...
Maria Remarque.
Voilà, merci. Je n'arrivais pas du tout à le dire, parce que je pleurais systématiquement. Donc là, effectivement, je me suis fait accompagner de...
Pierre
Wilpart, qui a accepté de jouer le rôle du soldat. Et donc, lui, il m'a envoyé l'enregistrement de sa voix, et après, je me suis calée dessus. Donc, finalement, je n'avais pas l'impression de la dire, mais j'avais l'impression de répéter quelque chose pour vraiment qu'on ce soit qu'une seule voix. Et pour Sue-Hélène, j'ai fait le test, en fait, moi, de le prendre dans ma voix, mais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, et donc on a fait appel à... Et c'est Alain qui connaissait Estelle qui me l'a fortement conseillé. Il a bien eu raison, d'ailleurs.
Puis on te voit, bon, l'auditeur qui ne voit pas, mais il y a ta petite photo d'identité incrustée, tu es la sœur, en fait, de Sue-Hélène, ou la belle-sœur.
Alors ça, c'est la photo de ma sœur que j'ai incrustée. Ouais, c'est ma sœur, oui. Qui prend la place de la sœur de Sue-Hélène, donc Christine, enfin, de la belle-sœur. Sur le flyer, ouais. Ah, il y a des petits trucages, ouais, j'aime bien.
Il y a plein de trésors dans ton film aussi, visuellement. Et pour la voix, je me souviens aussi que tu m'as dit que tu avais beaucoup travaillé.
J'ai galéré. Ouais.
Et on sent, ce qu'on sent, c'est vraiment quelque chose qui vient du fond de toi. Il y a quelque chose de très généreux. Il y a quelque chose de ta personnalité aussi qui ressort de ton espièglerie, de la distance que tu peux avoir, et même de la tendresse que tu as pour toi-même. Et c'est remarquable. Je trouve ton film super juste. Et j'étais vachement touché par ça.
Eh ben, je te remercie, Jules, de me le dire là. Non, la difficulté de ce film, c'était de trouver le ton juste, en fait,
sans rajouter, ma voix, quoi. Sans être trop froid. Et...
Voilà, je voulais pas pleurnicher et je voulais pas non plus être trop grave. Enfin, voilà, alors, je vais juste anticiper, je sais pas si c'était une des questions, mais c'est une question que j'ai eue, moi, quand j'ai présenté le film à l'USAS. On m'a demandé, par exemple, à un moment donné, il y a un carton qui intervient à la fin du film. Je vais pas dire ce que c'est dedans, mais en tout cas, on m'a demandé pourquoi il y avait ce carton. Et en fait, je veux dire carton, c'est qu'il y a une phrase que je ne dis pas, qui n'est pas lue. Donc, c'est chacun, chacune qui s'interprète en le lisant pendant le film, quoi. Et en fait, c'est simplement que je n'arrivais pas à dire cette voix, parce que je parle de ma tante, et concrètement, j'y arrive pas, je pleure, j'ai trop d'émotions, je n'arrive pas à le faire. Donc là, j'ai choisi que ça reste écrit. Voilà.
Et ta tante a vu le film aussi, du coup ?
Ma tante n'a pas vu le film.
Non.
Elle sait que sa voix est dans le film, elle a su. Maintenant, ma tante Francine, je ne crois pas qu'elle soit suffisamment consciente de comprendre aussi ce qui lui arrive en ce moment, donc voilà, elle ne verra pas le film.
Mais c'est fou d'avoir gardé tous ces... Parce que, bon, pareil pour l'auditeur, en fait, dans le film de Laurence, il y a un moment où il y a la voix de Francine enregistrée sur le répondeur. Donc ça veut dire que tu as gardé des traces de tous tes messages quand tu ne répondais pas, quand toute ta famille s'inquiétait pour toi, sans doute.
Exactement, oui. Ouais.
T'as tout gardé sur des petites cassettes.
J'en ai gardé une dizaine. J'ai gardé une dizaine de messages, mais ouais.
J'ai trouvé que c'était un moment très fort dans la projection pendant le débat autour de ça et de ce que toi tu transmets aussi à travers tout le travail que tu as pu ciseler, mais aussi quand tu le présentes et ce que tu ne peux pas dire, mais qui émane quand même de toi.
Bah, oui, à l'USAS, quand on m'a demandé pour le carton, que j'arrivais même pas à expliquer pourquoi j'arrivais pas à parler.
Et c'est aussi ton témoignage en tant que femme et relié à toute ta famille aussi, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, si je peux terminer la parenthèse, il y a beaucoup d'espace. En fait, c'est important la mixité aussi dans le rétablissement, mais il y a aussi beaucoup d'espace plus spécifique pour les femmes. Et il y a de plus en plus de possibilités. Voilà, juste pour la mixité, il faut que ce soit safe pour tout le monde. Et du coup, il y a aussi des espaces...
Alors là, il y a aussi un espace pour la mixité, puisque nous allons faire la deuxième pause musicale avec une femme qui s'appelle Annie Cordy.
Waouh.
Ça s'appelle « Les copains m'appellent si rose
¶¶ soir. Et moi, au bout du comptoir, du comptoir, du petit bar, du bar de Monsieur Edouard, je pense, je pense. Les copains m'appellent si rose. Et je ne comprends pas pourquoi, 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 pourquoi. Bien sûr, ils savent que j'aime les fleurs, mais pourquoi justement si rose, plutôt que une ou deux ou trois. Les copains m'appellent si rose. Pourquoi m'ont-ils donné ce nom, ce nom, ce nom, ce nom. Bien sûr, ils savent que j'aime les fleurs, mais pourquoi justement des roses, plutôt que des rhododendrons. Et il y a Monsieur Edouard qui derrière son comptoir me dit que sûrement c'était à cause de mes parents. Ah, ça me trouble, ça me trouble. Papa s'appelait pas si rose. Puisqu'on l'appelait bois sans peur, sans peur, sans peur, sans peur. Grand-père, on l'appelait la liqueur. Tonton, c'était l'irrigateur. Je vois pas le rapport avec les fleurs, mais s'ils veulent m'appeler si rose. Après tout, je peux bien les laisser, 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 laisser. Edouard, serre-moi un muscadet, car il ne faut pas l'oublier. Les roses, il faut les arroser. Les copains m'appellent si rose. Et je ne comprends pas pourquoi, 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 pourquoi.
C'était Annie Cordy, comme quoi on peut rester à sourire avec des sujets très graves. Qu'on parle d'abstinence, c'est pas toujours très gay, mais Annie Cordy, bah, ça nous remet un peu peps, quoi.
L'abstinence, c'est vachement plus gay que l'addiction.
Ah, mais c'est bien que tu dises. Donc, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, dans l'émission d'Adoc. On a déjà traité le sujet avec nos deux invités. Là, c'était Jurle qui parlait et Laurence Michel pour leur film. Et on va continuer de parler d'abstinence et d'alcoolisme un peu. Donc, Laurence, toi, tu as accumulé, ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup, beaucoup d'archives. Et ta famille, est-ce que ta famille t'a aidé? Est-ce que ta famille t'en a rapporté d'autres auxquels tu n'aurais pas pensé? Ils savaient que tu faisais ce film ou pas?
Oui, alors, enfin, ma famille, mes parents surtout et ma sœur savaient que je faisais ce film, mais de loin quand même. C'est-à-dire que genre, ils savaient pas trop de quoi j'allais parler, comment, mais effectivement, j'avais dit que j'allais utiliser des objets. Et la chance que j'ai eue, en, si on peut dire, c'est que pendant l'écriture, ma grand-mère, qui était bien, hein, mais elle est allée en EHPAD et du coup, on a vidé sa maison et dans laquelle j'ai trouvé plein de richesses, quoi, d'objets. Et que j'ai pu utiliser par la suite, mais du coup, ça a permis de développer mon récit petit à petit, quoi.
Parce qu'on voit, tu parles d'une généalcologie entre guillemets, ouais, comme papoune. Ça. Je ne sais pas si c'est du côté de ta mère ou du côté de ton père.
De ma mère.
Du côté de ta mère, il y a les vendanges. Alors forcément, il y a tout un passif, quoi. C'est difficile. Ça, on le voit aussi dans le film de Jurle, dans vos deux films. Ça, le côté, le poids de la famille, on l'a un petit peu aussi dans les. Enfin, on l'a pour vous deux, tout.
Oui, voilà, mon grand-père Papoum buvait, et son père, donc mon arrière-grand-père Joseph, buvait aussi, ouais.
Et ton arrière-grand-père, ben là c'est l'extrait nous, qu'on a choisi d'écouter pour qu'on se rende compte. Donc à l'image, là, on a un soldat, l'image elle tremble un peu, le ralenti, je sais pas comment t'as fait ça, ce ralenti sur l'image.
Alors ça, c'est une histoire de shutter dans l'appareil photo, dans la caméra, où on ralentit l'ouverture du diaphragme, en fait, de manière à ce qu'on ait l'impression d'une vitesse ralentie.
Mais pourquoi t'as voulu faire cet effet, en fait?
Alors pourquoi? C'est parce qu'au départ, il y a avant cette séquence-là, il y a toute une séquence de photos noir et blanc de l'époque, donc c'est les seules photos que j'ai de mon époque, on va dire, alcoolique, cette période alcoolique, et j'ai décidé de faire des fondus enchaînés de mes images, mais les images, moi, que j'avais prises en photo à l'époque, pareil, j'avais ralenti le temps de pose, pour ça et les photos sont floues, effectivement. Donc, pour faire... pour que les deux séquences s'enchaînent, enfin, non seulement dans les deux séquences, Claire Childéric, qui a fait la création de lumière sur mon film et qui aussi maîtrise très bien la caméra. Donc il y avait aussi Hélène Motou à la caméra, et j'avais deux chefs-op, c'était génial. Et donc Claire Childéric a conseillé à Hélène de modifier le temps de pause, l'ouverture du shutter, pour que ça donne un effet de ralenti, pour que les deux séquences puissent s'enchaîner, parce que quand on a tourné le film, on était dans un studio noir qu'il a fallu éclairer, et à chaque fois qu'on tournait une séquence, j'expliquais l'avant, l'après. Quelle était la séquence d'avant, quelle serait la séquence d'après, parce que c'était très écrit, et du coup chacun, chacune pouvait faire des propositions créatives pour le film, quoi.
D'accord, et donc à l'image, donc il y a ça, il y a Joseph, il y a sa signature, et donc à la fin, donc on voit à l'image le livre de poche À l'Ouest, rien de nouveau, d'Heinrich, je dis sans doute très mal mon allemand, Heinrich Maria Remarque, qu'on a tous étudié pendant la guerre 14-18 à l'école, au collège, quoi, pratiquement. Donc le dernier extrait du film. Merci Anne.
Joseph, mon arrière-grand-père maternel, alcoolique. C'est la seule chose que l'on m'ait dite de lui quand, petite, je m'aventurais à demander « Comment il était, Joseph ?» Engagé volontaire dans le 32e régiment d'infanterie à 24 ans pour combattre dans les tranchées, il est blessé et fait prisonnier en Allemagne. Je ne sais rien d'autre, sinon que l'alcool distribué largement par l'armée française pour envoyer les hommes au front était probablement devenu un excellent allié. Son régiment fut récompensé avec les honneurs pour brillante conduite devant l'ennemi. Mais de quel ennemi s'agissait-il finalement? Était-ce vraiment une victoire? La vie est uniquement occupée à faire le guet continuellement pour se garder des menaces de la mort. Elle a fait de nous des animaux pour nous donner cette arme qui est l'instinct.
Elle a émoussé notre sensibilité pour que nous ne défaillions pas devant les horreurs qui nous assailleraient si nous avions la conscience claire et nette. Si maintenant nous revenons dans nos foyers, nous sommes là, déprimés, vidés, sans racines et sans espoir. Nous grandirons, quelques-uns s'adapteront, d'autres se résigneront et beaucoup seront absolument désemparés.
Les années s'écouleront et finalement nous succomberons. La vie qui m'a portée à travers ces années est encore présente dans mes mains et dans mes yeux. En étais-je le maître, je l'ignore. Mais tant qu'elle est là, elle cherchera sa route.
Donc c'était bien Pierre Wilpart qui faisait la voix avec toi, Laurence,
oui,
on le redit, parce que c'est vrai que tu... Donc toi, ça, j'ai vu, t'es même émue, même à le rentendre là, t'es encore émue.
Oui, mais après c'est très bien écrit aussi. Hein.
Mais ton texte, il est...
C'est le livre en fait, qu'on est en train de lire. Donc, en fait, ça m'émeut parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur mon arrière-grand-père, donc Joseph, sur Internet, parce que j'ai su qu'il avait été blessé et amené dans un camp de prisonniers en Allemagne. Et j'ai effectivement retrouvé son nom dans des archives allemandes. Et même si ça ne dure pas très longtemps dans le film, c'est vraiment, pour moi, c'est un paragraphe, en fait, cette histoire. Pendant un mois, j'étais en immersion dans les images, dans les rares images que j'avais de lui, de la guerre, etc. Et du coup, je suis émue parce de cet homme-là, on m'avait simplement dit qu'il était alcoolique, et ça veut dire que c'était très réducteur, et je voulais avoir un regard beaucoup plus tendre sur lui, et comme j'ai pour mon grand-père d'ailleurs, quoi.
Oh, effectivement, oui.
Et cette séquence-là de soldats, pour moi, ça raconte le traumatisme aussi qui peut déclencher la prise d'alcool ou le début d'une addiction, en tout cas. Parce que ça m'arrangeait de parler du traumatisme de mon arrière-grand-père et de pas parler du mien, par exemple.
C'est pas éviter de dire des choses. Mais en fait, tu prends de la distance, en fait.
Oui, voilà, c'est une manière de prendre de la distance, oui.
Dans l'extrait qu'on entend, il y a un diplôme. Le diplôme, c'était conservé pareil.
Oui, il était dans le grenier de ma grand-mère. Ouais.
Ta grand-mère, ouais. Et dessus, vous avez rajouté des bruitages. T'as fait beaucoup de travail. T'as recréé
Oui. Alors, en fait, ce qu'on ne voit pas là, mais ce qu'on voit dans le film, c'est qu'effectivement, il y a un décor qui a été créé par Laetitia Advocat, donc qui est amie, mais aussi qui est créatrice, en fait, qui est set designer sur des plateaux de publicité, par exemple, et celle qui m'a créé plusieurs décors, notamment celui-ci. Donc, il est en papier craft et sur lequel elle m'a... Donc c'est assez grand, hein, c'est à peu près 1 mètre carré, et sur lequel elle a créé des collines et des arbres détruits par des éventuelles bombes, des maisons détruites, etc. Et c'est un travelling dans lequel on se déplace pour arriver... Donc on a un champ de bataille, en fait, avec des fumées qu'on a... allumé pour le tournage, et petit à petit on se déplace vers le diplôme donc de mon arrière-grand-père, où on comprend donc que c'est la victoire qu'il a eue, c'était de sortir vivant de cette guerre, mais en fait, et je me dis voilà, vivant, mais
dans quel état,
voilà.
Ouais, comme beaucoup.
Et donc, pour cette séquence, effectivement, on a recréé toute une séquence sonore, toute une création sonore. Et je voulais donc parler de Agathe Poche, qui a fait la création sonore, donc montage et mixage. Et pour la musique, parce que tout à l'heure, vous avez passé des extraits avec de la musique, c'était Grégoire Terrier aussi qui a tout recomposé à partir de... Alors, il a un univers électropop que j'aimais, mais il a aussi recréé l'univers du film, en fait, la création sonore du film à partir des images.
Tu lui as fait un montage, comment ça s'est passé? Tu as fait...
À chaque fois, je lui ai envoyé les séquences, ouais, et il recréait de la musique à partir de l'intention du récit et aussi de l'image qu'il voyait.
Mais tu lui avais donné des indications,
on avait parlé de... Oui, on a fait beaucoup d'échanges, voilà, des Depeche Mode en l'occurrence, et puis des années 90, des musiques électro des années 90, mais aussi en fonction de son univers à lui, quoi.
Et puis, tu avais aussi Rencontre d'un troisième type, c'est ça, pour les aurores, bref.
Pour les balises. Effectivement, il y a des sons, on entend, il y a 5 notes de musique, et il a recréé... alors, l'idée, c'était de refaire un peu comme, effectivement, dans le film, où il y a 3 notes, je crois, dans le film, 3 notes musicales, et c'était l'idée. Et ça, dès l'écriture, on y avait pensé avec Alice et Alain de...
Parce qu'elle, c'est crescendo dans le film, je crois, que les notes ne sont pas exactement tout le temps pareilles, non?
Voilà, c'est crescendo, ouais. Et ça arrive à son apogée dans la séquence finale.
On va pas tout dire
du
pour
film,
les
voilà,
vous
allez
pas
le voir,
effectivement. Et toi, Jean, pour les musiques, toi, dans ton film, à toi, il y a qu'à la fin qu'il y a une musique, par
ouais.
exemple.
Hein. On a des façons. Bon, déjà, c'est pas la même production, mais moi, c'est vrai que c'est beaucoup du cinéma direct. Du coup, je suis vraiment... moi, je suis debout devant eux, j'ai la même tension à filmer que eux à délivrer leur expérience. Et à la fin, j'avais envie de cette question qui s'ouvre. Voilà, c'est la vie. On verra justement quand on s'engage dans ce processus qu'est-ce qui peut se passer. Et cette version pirate des White Stripes de Instinct Blues, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très fort qui est relié au film, puisque une fois que on s'est débarrassé de tout produit, qu'on commence à suivre sa voie, mais on renoue avec une forme d'énergie et d'instinct. Que chaque personne a et dont on s'est souvent coupé avec les produits.
Ouais, ça te parle aussi, de couper de...
Oui, moi je voulais juste réagir aussi sur le film de Jurl, parce que je l'ai revu avant de venir, et ce que j'ai noté, c'est que ton film, il commence dans le noir et il termine à la lumière, et que les premiers personnages, ils sont vraiment face cam, très resserré. Et petit à petit, j'ai remarqué dans l'évolution, on va à l'extérieur, tu filmes tes personnages à l'extérieur, donc tu as vraiment, par ton montage aussi, montré l'évolution qu'une personne, ou en tout cas chaque personne peut avoir. Et j'ai trouvé que c'était assez fort, en fait, la narration que tu as trouvée, quoi.
Il y a aussi la question du son dans le film de Jurl, hein, c'est-à-dire le son de la voix intérieure, puisque tu t'es formé aux ateliers Varan, spécialement en section son.
Ouais, c'est juste après.
Hein, en tout cas, et non, mais je pense que voilà, t'as pris le parti de traduire la voix intérieure des personnages en les montant avec leur propre voix off, donc on est tout de suite dans le portrait, mais ça, tu l'utilises plusieurs fois dans...
Ouais.
Dans le film, et ça, c'est assez beau. On commence comme ça, et on est vraiment avec eux tout de suite, en fait.
Ouais, ça crée une intimité tout de suite.
C'est ça.
Et j'ai fait la formation son bien longtemps après. Mais l'idée, après, c'était vraiment qu'ils délivrent leur message. Donc, ils savent quoi dire. Ils sont vraiment là pour ça. Il y a vraiment une grande force. Et en même temps, c'était important de mettre aussi... En fait, je n'avais pas prévu de les mettre face caméra. Et c'est le monteur qui m'a dit, écoute, moi, j'aimerais bien les voir. Filme-les quand même. Et en fait, c'était extrêmement fort de pouvoir jouer après en décalant l'image et le son. Et après, avec cette idée aussi de les représenter dans ce qui était significatif pour eux de leur vie aujourd'hui. Et du coup, on les voit dans plein d'autres activités. Donc, si c'est la famille, bah, c'est aussi voilà, avec leurs enfants. Mais ça peut être aussi dans d'autres situations et ou en extérieur. Mmh. Où on voit Thierry aussi voilà, dans la rue. Voilà, Thierry, j'ai une grosse pensée pour toi. J'espère que t'es peinard là où tu es. Et du coup, de jouer avec l'intérieur et l'extérieur, ce qu'on donne, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, et de pouvoir, en fait, quelque part, être le même à l'intérieur et à l'extérieur, et d'être aligné comme ça, c'était assez instinctif aussi de réaliser comme ça.
Mmh. Mais le fait d'être autoproduit, en fait, c'est ce qui t'a permis de commencer le montage et de revenir tourner derrière et rajouter, non? Ça donne de la liberté, non?
En fait, j'avais pas de... J'ai tout fait à l'instinct avec juste un petit entretien avec Suzy Longbottom. Donc c'était vraiment l'idée de pas revenir sur le parcours de soins ni sur l'addiction active. Et puis j'ai rencontré plusieurs monteurs avec qui ça a foiré jusqu'à ce que Florent me dise moi je le fais. Et là on a pu avoir quelques échanges en cours jusqu'au jour où on a monté ensemble. Donc je montais toute la journée, j'allais le voir lui après le soir. Après ces journées de taf, on montait 2, 3, 4 heures ensemble. Il me disait, maintenant tu bosses là-dessus, machin. J'ai retourné. Et en fait, sur un an, voilà, il y a eu 17 tournages et puis 3 semaines de montage non-stop. Et du coup, c'était fait dans cette énergie-là aussi.
Alors, peut-être que nous pouvons aborder le troisième extrait de ton film, justement. Donc... Pour aborder aussi la place que peut jouer la famille dans le film. Donc, on va lancer directement l'extrait.
De quel?
Quand ma fille est venue au monde, j'ai appris à ce moment-là d'être papa. Et au début, la petite arrêtait pas de réclamer sa mère. Et j'étais un peu jaloux de ça. Mais la vérité, pourquoi elle réclamait toujours sa mère, c'est que je changeais pas ses couches. Je la berçais pas quand elle dormait, je faisais que de jouer avec elle. Et à chaque fois qu'elle avait besoin de se sentir en sécurité, elle réclamait sa mère. Quand j'ai compris que être père, c'est aussi donner de l'éducation, j'ai commencé à poser des actes, comme la bercer le soir. Quand la première fois qu'elle pleurait et qu'elle disait papa, j'avais pris à ce moment-là ma place de père. Oui. L'égocentrisme, en fait, c'est vraiment quelque chose qui fait marcher vraiment de la maladie de la dépendance. C'est, si je grandis pas, je vais vivre comme un tox clean, quoi. Tous les dépendants que je vois, en fait, ils valent tous quelque chose. Ils sont tous exceptionnels dans un domaine. Et la différence entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, c'est que c'est celui qui réussit, en fait, il se donne les moyens d'être à la hauteur de ses valeurs. Et ça fait toute la différence. Et lui pose des actes, tout simplement.
Et donc oui, voilà, donc nous voyons Kian sur son balcon filant avec sa fille on sent vraiment que il s'en est aussi sorti parce qu'il avait un environnement familial et qu'il avait quelqu'un dont il pouvait s'occuper et qu'il avait le souhait de s'en occuper bien. Et c'est assez joli cette séquence d'ailleurs. Et donc on est un peu à la fin du film, et comme il a été évoqué tout à l'heure par Laurence, oui, cette progression qui nous amène à sortir de la confrontation face caméra du début du film, et à la fin on est vraiment avec les éléments du ciel, enfin on a quelques fleurs sur ce balcon, et puis l'enfance, et puis tout à coup peut-être une forme de départ. Alors ça, c'est assez joli aussi.
Ouais, pour Kane, c'était vachement important de parler de sa parentalité. Et du coup, bah voilà, quand on travaille sur soi aussi, on peut changer le cours des choses, briser des cycles et des générations. Et pour lui, c'était important de partager qu'il a pu modifier son rapport à l'éducation, prendre sa place de père et au sein de son couple. Et du coup, bah, moi, j'ai trouvé ça super intéressant aussi en tant qu'homme et que ça puisse profiter à d'autres. De dire que bah voilà, on peut ne pas reproduire, on peut devenir soi-même, on peut transmettre et que ce soit doux et bon pour tout le monde.
Donc une question d'entraide aussi autour de
ouais, ou là ce serait plutôt l'ordre de la transmission. Mais du coup aussi de faire circuler l'amour, circuler la force, circuler l'énergie et pas rester bloqué dans des schémas destructeurs, répétitifs, obsessionnels, compulsifs.
Bon, bah, très bien.
Toi, Laurence, cette séquence-là, parce que dans le film de Jules, effectivement, elle emmène directement. Je crois que le personnage d'après, c'est celui qui est en fauteuil roulant, non? C'est l'avant-dernière.
Non, après, c'est Mohamed.
Après, ah oui,
c'est vrai. Qui a fait un gros travail, lui, sur la violence. Et puis, et Thierry vient à la fin.
Parce que lui, il n'a pas de famille, Thierry, pour ce qui.
Non, Thierry, il a une famille extrêmement dysfonctionnelle qui l'a beaucoup marqué. Et il a fini seul. Mais. Bah, les dernières scènes que j'ai accompagné Thierry dans beaucoup d'hôpitaux du 93, je l'ai filmé pendant 5 ans. Voilà, quand il est décédé, en fait, donc Thierry a plus eu de famille très tôt. Il a eu, voilà, c'était très compliqué pour lui. Et au moment de sa mort, bah, dans la chambre d'hôpital, il y avait sa nouvelle compagne et sa fille qui était là et qui avait réapparu depuis quelques jours. Et son fils qu'il avait pu recontacter, qui ne souhaitait plus le voir. Et bah voilà, on était tous les trois dans sa chambre et. Et à l'enterrement, il y a aussi bah, beaucoup de gens des résidents de la CT qui étaient là.
Qui parlent d'une nouvelle famille.
Ouais. C'est ça. Donc, ouais. Oui, le lien, ça recrée aussi du sens dans la vie. Hein, ça,
tu dis que t'as filmé 5 ans.
Ça répare.
Ouais.
Et Laurence, t'as filmé combien de temps, du coup?
Oh, ben, moi, c'était plus rapide, hein, parce que il y a eu 7 jours de tournage en studio pour filmer les objets, et après, je suis partie 3 fois en Norvège, 3 fois 6 nuits pour tourner là-bas.
Et on se demandait, donc, est-ce que c'est la bourse Brouillon d'un rêve qui t'a permis de te payer les voyages? Est-ce que t'en avais fait un avant? Comment ça, enfin, par rapport à vos productions, ça, c'est con. Vos films sont vraiment très différents, quoi, parce que vous pouvez tous les deux parler de la production du film.
Oui, enfin, je voulais juste rebondir parce que c'est très fort ce que tu as dit, Jules, oui, par rapport au personnage de ton film. Moi, je veux dire que ma famille m'a aidée et c'était l'essentiel, quoi. C'est-à-dire que moi, j'avais ma famille quand j'ai fait ma cure et que je suis sortie de ma cure. J'avais mes parents qui étaient là et qui m'ont accueillie pendant le temps qu'il fallait pour que je puisse m'en sortir, quoi. Donc, la famille voilà, était importante. Je voulais juste te dire
ça. C'est une question qui était prévue,
oui,
d'ailleurs.
Oui, non, mais parce que je me sentais mal de répondre direct sur le budget après, oui. Mais. En fait, on a écrit à Brouillon d'un rêve. Moi, je suis partie avant, en fait, pour faire des repérages. Donc, oui, ça m'a remboursé, mais j'ai dépensé beaucoup d'argent personnel pour faire le film. Mais on a eu quand même beaucoup d'aide. On a eu l'aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes après avoir eu Brouillon d'un rêve. On a eu Tank aussi, et on a eu le CNC, l'ancien COSIP, je ne me rappelle jamais de nouveaux trucs. Donc on a eu pas mal de financements pour faire le film.
Et toi, Jean, pour tenir 5 ans, donc c'était tes économies, c'était quoi?
Ouais, non, j'ai filmé pendant 5 ans Thierry, parce qu'on avait, noué cette relation très forte. Mais pour ici, maintenant, le tournage a duré 1 an. Et du coup, bah ouais, moi j'ai taxé la caméra de Catherine Richard, c'était super. Bien. Je trouve que ça m'a apporté bonheur. J'ai des potes voilà, qui m'ont prêté un micro. Et puis je me suis démerdé. Du coup, le deal, c'était, on demande un film, même si on n'a pas de budget, pour moi, ça avait énormément de sens de le faire. Et puis après, le film m'appartenait. Du coup, après, j'ai pu organiser beaucoup d'événements, beaucoup de projections. Et de là aussi est née ma pratique. C'est-à-dire qu'au début, je me demandais, OK, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que ce que je fais, ça a de l'impact sur les gens? Et puis quand j'ai vu que les gens trouvaient ça intéressant, j'ai continué jusqu'à ce que ce film-là, et que ce film aussi a permis d'avoir de l'impact sur des structures d'accueil, sur des professionnels de santé, où on a très peu l'habitude de voir en fait dans des addicts en fait sobres et qui sont capables de parler vraiment de leurs problèmes, de leur maladie, comme de leur établissement, de recréer des liens, de changer de vie. Et du coup, pour moi, c'est important de le diffuser. Notamment, on a fait des projections en détention, ce qui était extrêmement forte, avec un accueil super froid au début, et à la fin, c'était super chaleureux, et tous les détenus se livraient. Ça a vraiment libéré la parole. Et là, je remercie Mohamed, qui était venu avec moi ce jour-là. Et puis, on en a fait aussi dans des centres de cure, beaucoup, où il y a plein de gens qui ont pu s'identifier, qui n'avaient aucune idée de ce que pouvait être l'abstinence, et qui, en voyant ce film, on ressenti énormément d'espoir. Et puis je le diffuse aussi beaucoup dans des formations pour des professionnels de santé. Et là, ça peut être soit des jeunes qui ont des représentations qui sont souvent liées au cinéma, sur la drogue, l'alcool, et qui ont du mal même à pouvoir le relier à leur propre parcours, à leur propre famille, et qui du coup sortent un peu de la théorie et voient autre chose, comme à des professionnels qui sont aguerris et qui bossent dans l'addiction depuis des années et qui n'ont jamais vu des personnes comme ça, parce qu'ils ont d'autres approches de soins qui ne permettent pas l'abstinence et un niveau d'expression comme ça. Et du coup, c'est sûr que pour accompagner des toxicomanes et des alcooliques à arriver à ce niveau de compréhension d'eux-mêmes, il faut des relations très fortes avec des gens qui sont formés, qui savent faire, et qui et du coup c'est évident que ça peut pas se faire en état d'ébriété, ça peut pas se faire les traitements de substitution peuvent être un passage pour arriver à atteindre ça, et ça se pratique beaucoup avec l'entraide entre pairs. Donc c'est vraiment des groupes de parole, chacun partage son expérience et ça résonne d'un corps à l'autre, et une histoire répond à une autre, et ça, j'ai trouvé ça remarquable.
Oui, c'est en ce sens que vraiment on peut dire que c'est un vrai outil que tu as fabriqué qui va encore faire son chemin dans les temps qui viennent.
J'espère.
Et toi, ton film, en fait, tu viens de rencontrer deux succès différents. T'en as eu un à Porto, en Suisse. Enfin, c'est le début, toi.
Oui, c'est le tout début du festival. Donc, la première partie de l'année a été compliquée parce que j'avais plein de refus de festival, de non-sélection. Là, ça commence à démarrer, donc c'est chouette.
Où est-ce qu'on peut voir ton film, parce que
la prochaine ce sera à Cannes dans un festival à Cannes.
Yes. Ouais.
Le 11 novembre prochain, voilà, 16h30 si vous êtes dans le coin. Après, il y aura le festival Chéri Chéri à Paris, un festival LGBT, ce sera le 22 novembre et le 27 novembre. Le 25 novembre, c'est un samedi, ce sera le festival Après Varan qui vient de le sélectionner. Et j'ai aussi, début décembre, à Évreux, c'est le film d'éducation. Mais là, je suis contente aussi, c'est surtout destiné à des enfants et des ados et des étudiants. C'est début décembre, j'ai pas la date encore de projection. Et j'espère qu'il y en aura d'autres à venir. Et moi, j'aurais très envie, Jules, qu'on fasse un doublé avec nos deux films.
Avec plaisir.
Ça serait super. Peut-être de trouver des projections. Avec des débats après, quoi, ce serait super.
Bravo. Nous sommes heureuses de vous avoir réunis aujourd'hui. Si jamais ça peut déboucher sur un projet particulier.
Ton film, on peut le voir où, vous jure, du coup?
Aujourd'hui, principalement, en fait, dans des organismes de formation. Il circule comme ça. Je peux organiser des projections à la demande. Et puis, je me souviens que pendant le confinement, je l'avais mis à disposition de structures d'accueil qui, en confinement, accompagnaient des toxicomanes. Et du coup, on peut s'arranger, du moins qu'il y a trois conditions qui sont essentielles pour moi. La première, c'est que les personnes y accèdent gratuitement, que les conditions de projection soient bonnes et qu'il y a un temps d'échange après qui soit possible.
Bien.
Eh bien,
on va donner la parole.
Ces bonnes paroles. On vous remercie déjà infiniment pour votre participation dans cette émission qui a permis à tous nos auditeurs de vous rencontrer, de vous découvrir et peut-être de voir bientôt et les films de Laurence et de Jules.
4801 nuits.
Oui, donc on répète le titre 4801 nuits de Laurence Renaud.
Non, Laurence Michel, mais pourquoi
Michel, alors
Laurence Michel.
Michel, pardon, entre Martin
4801 nuits, parce qu'effectivement, c'est le nombre où tu étais. C'est une question qu'on t'avait posée à l'USAS.
C'est une question qu'on m'a posée. Mais est-ce que je vais répondre maintenant? Il faut voir le
film.
Voilà.
Il faut voir le film, absolument, voilà. Chers auditeurs. Dépêchez-vous, réservez vos places.
Ici et maintenant, un autre choix possible, c'est ça?
Yes.
Un autre choix est possible. Hein.
Ouais.
Voilà, très bien. Alors nous allons passer la parole à Anne Galland pour l'agenda.
Eh bien, à mon tour, bonsoir. Voilà donc l'agenda documentaire de notre émission. On a déjà traité le sujet. Pour ce mois de novembre, comme chaque année depuis l'an 2000, novembre est le mois du doc. Et particulièrement cette année 2023 qui est l'année du documentaire, le rendez-vous incontournable pour découvrir des films et changer ses idées sur le monde. Sous le thème cette année de prendre la parole, des centaines de projections de films documentaires partout en France et dans le réseau culturel à l'étranger, vous trouverez le programme sur le site moidudoctoutattaché.com. Une grande nouvelle pour notre association ADOC. Ce mois-ci, ADOC lance son nouveau dispositif qui s'appelle un docu près de chez vous. L'objectif est de rendre possible des rencontres citoyennes autour d'un film en allant directement sur les lieux de vie d'un public souvent à l'écart des propositions culturelles. Dans toute l'Île-de-France, nous proposons aux structures qui aimeraient projeter des films documentaires un catalogue d'une vingtaine de films issus de la filmothèque de l'association. Pour chaque structure, un tarif unique de 50 euros est demandé. Cette somme forfaitaire inclut le droit de la projection, suivi d'une rencontre avec l'autrice ou l'auteur du film. Vous pouvez découvrir et télécharger ce catalogue, qui est destiné à s'enrichir chaque année, sur notre site adoc.net, addoc.net. La toute première projection de ce dispositif aura lieu le 15 novembre à 19h à CMA l'émulateur Évry-Courcouronnes dans l'Essonne avec le film d'Anna Salzberg, Le jour où j'ai découvert que Jeanne Fonda était brune, de l'intime au politique, une plongée dans les luttes féministes des années 70 pour que l'on continue d'écrire notre histoire. Une belle séance, si vous êtes dispo aussi, proposée par l'association Toile Étoile, qui propose une carte blanche à Anne Toussaint, qui a été présidente de l'association ADOC avant que l'on fonctionne en bureau collégial, puisqu'aujourd'hui on est vraiment en bureau collégial et on le revendique. Ce sera jeudi 9 novembre à 19h30, salle Gendarme, 17 rue Léopold Bellan dans le 2e à Paris, et on aura la chance de voir d'elle, de Anne Toussaint, donc deux documentaires, Fragments d'une rencontre et On est là, qui évoquent son travail avec des détenus de la santé ou des femmes d'un centre d'hébergement. L'entrée est libre grâce au soutien de la mairie de Paris-Centre. Des festivals au mois de novembre aussi. Le Festival des écrans documentaires, qui célèbre cette année sa 27e édition du 15 au 21 novembre, à l'espace Jean Villard, à Arcueil, dans le Val-de-Marne. S'intéressant particulièrement à la jeune création, cette manifestation souhaite refléter la richesse de la création documentaire dans sa diversité, tout ce qui, dans le cinéma, cherche, essaie, tente, résiste, mord sur le réel. Et puis aussi, ça commence à la fin du mois de novembre, la 28e édition des rencontres du cinéma documentaire de périphérie. Le festival se déroule donc du 29 novembre au 5 décembre au cinéma Le Méliès de Montreuil et vous proposera des films documentaires qui s'apparentent à des films de genre. Cette année, c'est le choix thématique. Comédie, burlesque, film de procès, de gangsters, de science-fiction. Tout l'éventail des émotions, du rire aux larmes. Et puis encore un petit mot sur l'exposition Viva Varda qui se poursuit jusqu'au 28 janvier 2024 à la Cinémathèque française, 51 rue de Bercy, Paris 12e. Cette expo présente 70 ans de carrière d'Agnès Varda à travers ses films, photos, installations, archives et costumes. Agnès Varda a déployé une œuvre à la renommée internationale, mais aussi profondément ancrée dans son temps, marquée par le féminisme et la marginalité, et qui reste d'une très grande actualité. Voilà, sur ce, je vous renvoie au site de l'association ADOC, addoc.net, sur lequel vous pouvez retrouver beaucoup des informations que je viens de vous donner, et aussi accéder à sa librairie en ligne, puisque ADOC publie, a coédité plusieurs livres qui sont souvent assez demandés. Manière de faire, forme de pensée, qui a été réédité l'an dernier pour les 30 ans de l'association. Et puis les cahiers d'ADOC, une nouvelle publication, une nouvelle collection qui s'inscrit dans une démarche d'archivage et de publication des débats organisés par ADOC sur les questions de cinéma. Et puis vous pouvez trouver aussi, et ça peut vous être très utile, des guides et des études comme le droit à l'image à l'usage des cinéastes ou comment rémunérer les réalisateurs qui accompagnent leurs films à télécharger sur le site. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos émissions qui ont démarré en novembre 2019. Je crois que ça fait 3 ans qu'on anime cette émission, on a déjà traité le sujet. Merci mille fois à Radio Libertaire qui nous accueille fidèlement et on est de plus en plus imprégné de cet état d'esprit, de ces émissions qui se font en direct et dans l'autonomie. On assure la technique et l'animation et c'est très particulier. C'est une très bonne école. Et donc, nous vous souhaitons une bonne fin de dimanche et au mois prochain pour une nouvelle émission, le premier dimanche du mois de décembre, une nouvelle émission de « On a déjà traité le sujet ». Et pour terminer, on vous propose d'écouter une chanson de Mio Sec qui, justement, a un rapport avec notre émission « Boire ».
Téléphone encore, ivre mort au matin. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et je me remémore notre nuit très bien, comme un crabe déjà mort. Tu t'ouvres entre mes mains, ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais et te genoux à terre. Non, 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 je ne suis plus sous, un peu à bout, c'est rien. Moi, je crois en. C'est tout. Allô, oui, c'est moi encore. Écoute-moi bien. Moi, la nuit, quand je m'endors, je t'imagine très bien perdu sous d'autres corps, me réclamant en vain, bouffé par les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière. Je te la fais et tes genoux à terre. Non, 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 non. Je ne suis plus sourd, un peu à bout, c'est rien. Moi je veux de toi, c'est tout. Mais ne raccroche pas encore, écoute-moi bien. Moi je voudrais qu'une fois encore, tu me prennes pour quelqu'un. quelqu'un et tes yeux brillent si fort comme moi quand je suis plein, bouffé par les remords de la Saint-Valentin. Ceci est mon vœu, ceci est ma prière, je te la fais et te genoux à terre. Je suis plus sourd, un peu à bout, c'est rien. Quand je crois en toi, c'est tout. Non, 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 non. Je ne suis plus sourd, un peu à bout, c'est rien. Quand je veux de toi, c'est tout.
Francisca, di winum winum Francisca.